Un bon jeudredi. On se reparle demain 14h. Bye, mademoiselle.
Salut, là.
Boulevard 102. Collé sur ce qui se passe ici et ailleurs.
Having met with the owners of Canada over the course of the campaign, it's not for sale, won't be for sale, ever.
Les enjeux qui te concernent.
Je ne sais pas comment le dire, là. Je vais être là en octobre 2026. Je veux un troisième mandat.
Le plus gagnant de la veille.
Here's McDavid!
La nouveauté de Green Day. Le fou rire qui fait ta journée.
Pas le choix de mettre ma graine de sel là-dessus, là.
Hein?
Ça,
quoi?
Une graine?
Ben, ça se dit pas du tout.
C'est un grain de sel.
Boulevard 102, du monde de Québec, par du monde de Québec. Une propriété Leclerc Communication.
Salut, bonsoir, Québec. Bienvenue sur les zones de Boulevard 102. En espérant que tu aies passé une belle journée. On va certainement passer une super de belle soirée ensemble, du moins un 60 minutes, puisque j'ai un bon invité ce soir, comme d'habitude, Michel Jean, qui va être avec nous autres. Je vous le présente dans les prochaines secondes. Juste avant, on va regarder ce qui se passe côté météo. Une alternance de soleil-nuage, c'est ce qu'on a eu aujourd'hui. À certains endroits, il y a eu des averses. Si vous n'en avez pas eu, bien, vous êtes chanceux. Ce soir, c'est partiellement nuageux avec un minimum de 9 degrés. Pour ce qui est de demain, vendredi, bien, ce sera un ciel dégagé avec un maximum de 18 degrés. Samedi, ce sera ensoleillé avec un maximum de 21. Et dimanche, ce sera ensoleillé avec un maximum de 23. Donc, un beau week-end en perspective. C'est le fun. On va profiter de la vie. Mon invité de ce soir, Michel Jean. Qui est Michel Jean? C'est l'ex-chef d'antenne de TVA, l'ex-chef d'antenne de LCN. C'est un auteur maintenant qui, en fait, depuis plusieurs années. Moi, quand j'ai rencontré Michel Jean la première fois, ça date de 2008, si je ne me trompe pas. Donc, ça fait déjà un bail. Puis ce soir, bon, on a décidé de se faire une petite séance de placotage. Donc, asseyez-vous confortablement dans le confort de votre véhicule ou encore à la maison ou encore au bureau. Puis on part la machine maintenant. Bonne soirée.
Marceau le soir, la meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau le soir, le soir, le soir.
Salut Michel Jean, comment vas-tu?
Ça va très bien, content d'être là.
Ben oui, content d'être là. La première fois que je t'avais parlé en ondes, ça fait déjà quelques années. Michel, tu dois, je sais pas si tu t'en souviens, c'était en 2008, j'étais un petit cul, je commençais à radio. Puis à un moment donné, on me dit, hey, Michel Jean pourrait te parler d'un livre, ça s'appelle Envoyé spécial, il pourrait passer dans vos studios. Puis tu étais venu passer une heure avec nous autres pour parler de ce livre-là puis pour parler de ta carrière d'envoyé spécial. Merci d'être là ce soir. Tu me rappelles de très, très beaux souvenirs.
Je m'en souviens. À chaque fois que tu as l'occasion de parler de tes trucs puis de façon ouverte, intelligente puis tripante, ça me fait toujours plaisir, tu sais. Puis même si... des fois, tu sais, moi, je suis un gars de région, je suis né en région, j'ai travaillé en région, donc ça me fait tout le temps plaisir aussi de parler aux médias qui sont pas juste à Montréal. Tu sais.
Ouais. T'es un ex-chef d'antenne, ex-journaliste et maintenant auteur à temps plein. Quand j'ai vu ton âge, je me suis dit, mais il est ben trop jeune pour prendre sa retraite des médias. Comment ça qu'on le voit plus, Michel Jean? Tu sais? Puis t'as de l'air tellement bien présentement. Faut dire aux auditeurs que toi, t'es à la maison chez toi dans le secteur du Mont-Saint-Anne. Moi, je suis dans mon studio. Mais de te voir comme ça, je me dis, il a de l'air relax, il a de l'air bien. On dirait que le stress est parti.
C'est pas tellement le stress parce que ça me stressait pas mon travail. Mais je suis content parce que, bon, tu sais, j'écris encore des chroniques dans la presse. J'ai fait des chroniques aussi à radio, à TV, à Radio-Canada de temps en temps.
Ouais.
Fait que j'ai pas parti, mais tu sais, j'avais beaucoup de gros projets, puis j'avais mes livres. Et à un moment donné, il y a X heures dans une journée, là, tu sais. Puis moi, pendant 6 ans, j'ai eu 2 semaines de vacances.
Et...
parce que j'avais 2 jobs à temps plein. Fait qu'à un moment donné, tu regardes ça, puis tu te dis... Tu sais, avant, je faisais beaucoup de vélo, tout ça. Puis à un moment donné, tu es obligé de couper quelque part. Et finalement, je faisais juste travailler, tu sais. Puis à un moment donné, tu te poses la question, bon, si je veux faire ça encore longtemps, ben faut que je trouve un équilibre un peu plus, tu sais. Je travaille encore passer 50 heures par semaine, tu sais. Mais avant, c'était tout le temps. Mes vacances, c'était... concentré pour faire soit des tournées, soit travailler sur mes livres. Je me levais à 5 heures du matin pour écrire. Après ça, jusqu'à 7 heures, j'avais mon meeting, tu sais, de TV. J'arrêtais à 7 heures, 8 heures moins quart, j'avais mon meeting pour l'émission le midi. Puis 8 heures et demie, je sortais de là, je m'en allais travailler. Je finissais de travailler à 3 heures à peu près. En général, je m'installais dans un café avec des écouteurs. J'écrivais jusqu'à vers 5-6 heures. J'arrivais chez nous à 7 heures. Puis la fin de semaine, je me levais et j'écrivais jusqu'à vers 11 heures midi. Puis c'était toujours comme ça. Fait qu'à un moment donné, tu sais, faut que tu fasses des choix. Et je me suis dit, bon, tu sais, avec mes livres, j'ai quand même des gros projets qui s'en viennent. Des projets de série, des romans. Hein. J'ai beaucoup d'activités en Europe où ça se passe bien aussi. Ouais. Donc, à un moment donné, j'ai dit, bon, le choix que je vais faire, c'est de mettre la priorité sur ces projets d'écriture, tout en continuant de faire un peu de journalisme quand même, parce que je me considère encore un journaliste. Tu sais, tu me vois pas commenter des affaires personnelles comme bien du monde, même si j'écris, même sur les sujets autochtones, tu sais, je m'en tiens tout le temps pas mal au fait. Je disais, j'ai pas changé, mais j'ai décidé de rediriger mon attention, me suis acheté un autre vélo de montagne, puis j'y vais, ou un vélo de route aussi, puis j'essaie d'y aller presque à tous les jours. Donc, tu sais, à la recherche d'un équilibre plus sain entre le travail puis la vie, à un moment donné, tu sais, pour être capable de le faire encore longtemps.
Ouais. Est-ce que tu aurais été capable d'avoir la carrière que tu as eue si tu n'avais pas travaillé autant?
Non.
Non, ouais.
Non, moi, je suis de la génération qui est arrivée dans le métier de journalisme juste après les baby boomers. Tu sais, je suis des premiers X. Donc, moi, j'étais à l'université, puis on nous disait, il n'y aura pas de job pour vous autres là, quand vous allez travailler, il faut que vous le sachiez, tu sais. Et d'ailleurs, comme mes amis qui ont étudié en enseignement n'ont pas eu de permanence en enseignement avant de passer 40 ans. En journalisme, je suis arrivé, puis les derniers de la génération baby-boomer étaient arrivés, puis ils avaient fermé les portes, ils avaient mis le cadenas en arrière d'eux autres, puis on se reverra dans 20 ans. Mais tu sais, pour percer, pour me faire une place, fallait être prêt à en faire plus que d'autres. T'sais. J'ai travaillé en Abitibi, à Sorel, en Abitibi, j'ai passé 2 ans en Saskatchewan, je suis allé à Toronto. Je suis allé à Montréal, puis là, c'est les grosses compressions à Montréal. Là, je suis allé à Québec, je suis retourné à Montréal. Tu sais, j'ai fait toutes sortes de choses. Ultimement, ça a bien tourné, puis je suis content parce que, comment je dirais, j'ai du respect pour les gens qui font des carrières très longtemps dans le même truc, tu sais. Mais moi, au bout du compte, ça m'a quand même permis de faire des choses différentes, puis ça correspond à ma personnalité d'aimer faire différentes affaires, de ne pas toujours faire la même chose, même si c'est bien stimulant. Ça fait que souvent j'accepte de travailler plus que les autres, je pense, oui, ou que la moyenne des ours, disons-le comme ça.
OK. Est-ce que je rêve où, dans les dernières années, tu mettais plus l'accent sur ton origine quand tu étais à la télé? Moi, je savais que ouais. Tu avais des origines inoues, on en avait jasé. Moi, j'étais un lecteur de Michel Jean, je lis tes livres, mais dans les dernières années, on dirait que tu étais... Tu te faisais un point ouais. d'honneur de mettre tes origines de l'avant. Est-ce que c'était voulu, ça, ou c'était... en fait, tu l'as toujours fait, puis c'est juste qu'on ne le remarquait pas?
Mais en fait, j'en parlais pas avant. La raison est simple, c'est que si tu es un journaliste puis que tu en parles, ça va juste te valoir des problèmes, des mauvaises blagues. Souvent, les gens vont mettre en doute ton jugement journalistique. Combien de fois, même encore aujourd'hui, tu sais, si j'avais le malheur de, mettons, de parler d'un sujet qui concerne les Autochtones, je me faisais reprocher par plein de gens. On se met un préjugé, t'es autochtone, tu sais, comme si on n'est pas capable d'être objectif et être autochtone. Moi, je leur répondais, c'est vrai, vous avez raison, dans le fond. D'ailleurs, c'est la même raison pour laquelle une journaliste féminine n'aurait jamais traité d'avortement, n'est pas objective. Et un journaliste québécois ne devrait pas avoir le droit de traiter de sujets qui touchent la langue. On aurait laissé ça aux Anglais. Ils sont plus objectifs que les Québécois francophones, tu sais. Fait qu'on deal avec ça, puis j'ai eu à ça. Fait que c'était juste une manière de faire mon truc. Dans ma vie privée, les gens le savaient. Tu sais, c'était, puis j'en parlais beaucoup, mais j'en parlais juste pas au travail. Puis c'est quand ma grand-mère est décédée, puis moi, toute ma vie, j'ai cherché à garder le lien avec la communauté. Puis après le décès de mon arrière-grand-mère, Almanda, dont je raconte l'histoire dans Cocum, tu sais, qui est décédée quand j'avais 17 ans, mais j'avais moins de contact à Mastouillas, puis on est moins allé, etc. Et la cousine de ma mère est venue me voir au funéraire de ma grand-mère. Puis c'est la première fois qu'on se rencontre en personne, puis elle me dit, faut que je te parle. Je dis oui. Elle dit, toi, Michel, elle dit, l'Indien, tu l'as en toi. Je dis, c'est beau, mais qu'est-ce que tu veux dire? Parce que quand je te vois à la télévision, les gens sont souvent énervés. Puis, tu sais, dans nos métiers, du monde énervé, hein, on en voit souvent. Et elle dit, les gens sont énervés, mais toi, tu es toujours calme. Elle dit ça, c'est indien. Ça m'a frappé parce que oui, je suis comme ça, mais j'ai toujours pensé que c'est un trait de caractère. Tu sais, je suis fait comme ça, mais elle me dit pas ça, c'est un trait culturel. Et là, je me suis demandé qu'est-ce qui a survécu d'Inou en moi qui a grandi à l'extérieur de la communauté, dans une ville, dans un environnement non autochtone. Et là, je me dis, bon, ben, il est peut-être temps que tu arrêtes de te préoccuper de ce que les gens pensent, disent de toi, puis que tu t'occupes, utilises le peu, tu sais, je ne vais pas dire pouvoir, parce qu'on n'a pas de pouvoir, mais d'influence ou de capacité de parole, disons-le comme ça, pour parler de ces sujets-là. Et c'est là que j'ai commencé à écrire là-dessus, c'est là que j'ai commencé à en parler davantage, mais ça m'a quand même pris, ça a quand même pris le coup de pouce de Jeannette qui m'a raconté ça. Ouais.
Avec du recul, est-ce que tu aurais dû le faire avant, justement, ce coming out-là qui est juste hallucinant parce que moi, Michel, honnêtement, je suis né au centre-ville de Québec, entouré de communautés, entouré de religions. Puis c'est au secondaire que j'ai appris que mes chums, ben, ils n'étaient pas pareils comme moi parce qu'il y a des gens des banlieues qui descendaient à notre école pour venir étudier. Puis là, ben, je me suis rendu compte que oh boy, les gens peuvent être méchants les uns envers les autres. Mais avec du recul, est-ce que les gens qui ont des racines autochtones devraient peut-être plus les mettre de l'avant dans les médias?
On est rendu là. Je veux dire, on est passé de génération avant moi. C'était pas la honte, là, que les gens n'avaient pas honte, mais les gens n'en parlaient pas souvent, à la jeune génération aujourd'hui où il y a beaucoup de fierté. Puis la jeune génération, elle, voit les choses autrement. Comme la jeune génération non-autochtone voit les choses autrement. Les temps changent. L'époque des vieux mononcracistes, puis tout ça, il y en a encore, mais ça évolue. Tu sais, je pense que les gens comprennent, puis on est de plus en plus nombreux à parler. Tu sais, l'idée, c'est pas de shamer les gens, de leur dire « gars » ou de montrer du doigt méchant blanc. C'est pas ça du tout l'affaire. C'est d'expliquer des choses. Ça se fait de plus en plus. Tu sais, donner un exemple. Je suis allé il y a peut-être 6 mois. C'était à l'automne, oui. J'étais allé on m'avait invité à Manawan, rencontrer les élèves de l'école là-bas. Mais tu sais, Manawan, là, je connaissais Manawan, la réserve, bon, tout ça, mais je n'étais jamais allé. Tu sais, tu prends la route à partir de Montréal jusqu'à Saint-Michel-des-Saints, là, la route s'arrête là. Puis, pour se rendre à Manawan, qui est à l'intérieur de la forêt, il faut que le gouvernement n'a pas fait un chemin. Ils ne sont pas desservis par une route comme tout le monde. Il y a un chemin forestier, donc c'est un chemin qui est utilisé par les camions. Les gros camions qui transportent les arbres qu'on coupe dans le bois avec des roches là, qui ont 6 pouces. Ce n'est pas du petit gravier. C'est fait pour des méga camions qui roulent à toute vitesse, qui ne se tassent pas quand ils les croisent parce que c'est leur chemin. Ce n'est pas une route de circulation, c'est un chemin forestier. Puis la route passe en montant vers le nord, à peu près, de mémoire, à une vingtaine de kilomètres de Manawan. Puis le gouvernement fédéral a fait un chemin de gravier qui va de la réserve jusqu'au chemin. Mais tu sais, quand j'allais là-bas, la madame m'a dit, tu sais, faites attention, elle dit, tassez-vous vraiment à droite dans les courbes. Oui, non, elle dit, sérieux, là, tassez-vous à droite dans les courbes, c'est dangereux. Puis, j'ai compris pourquoi, parce que j'ai croisé maintenant un camion qui arrivait à je ne sais pas quelle vitesse, puis moi, je me suis collé sur le, c'était l'hiver, hein, sur le banc de neige, là. Mon auto était collé, puis le gars, il est passé à 2 pieds de moi, c'est peut-être à 90 km à l'heure. Je dis, wow. Alors, les femmes, les familles, les enfants circulent sur cette route-là parce que c'est la seule. Tu sais, j'étais là, je me disais, c'est quand même honteux qu'il n'y aura pas un village du Québec qu'on laisserait avec une route dangereuse comme ça. Ça n'existerait pas si c'était en Beauce.
Mmh, exact.
C'est
pas vrai.
Mais c'est des Autochtones, tu sais, puis ah, ben, c'est loin, ah, puis c'est ça. Alors, ce genre de choses-là, on est de plus en plus nombreux à trouver ça injuste. T'sais, c'est pas. Et moi, je l'écris, je le raconte. J'accuse pas personne d'être sans cœur. Tu exposes la situation et tu laisses les gens juger. Puis moi, je pense que les Québécois, c'est un des peuples les plus ouverts. Quand on leur montre des affaires, ils comprennent. T'sais. Tu disais que tu vivais à Québec, puis il y en a une communauté à côté à Québec, Wendake.
Wendake. Une super de belle cohabitation qu'on a avec les gens des Premières Nations. D'ailleurs, le powwow va avoir lieu dans quelques jours. J'ai bien l'intention d'aller faire un tour. Mais c'est un bel exemple, ça, de relation entre les Blancs et les Autochtones. C'est qu'on fait nos affaires, ils font leurs affaires, puis en plus, dans nos affaires, on les invite, puis dans leurs affaires, ils nous invitent.
Voilà.
On est heureux.
Voilà. Ouais. Tu sais, mais il y a 20 ans, c'était pas comme ça. Les gens connaissaient pas vraiment ce qui se passait là-bas. Il y avait pas d'intérêt vers ça. Là, les choses ont changé maintenant. Les gens ont ouvert l'esprit. Les gens veulent savoir. Moi, ça me donne espoir. Tu sais, je me souviens, pendant la pandémie, il y avait des reportages qui avaient été faits au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le gars de la maison de tourisme expliquait c'était après la pandémie, c'était au moment où Coco avait eu son boom, mon roman, expliquait que avant la pandémie, 90 % des gens qui arrêtaient au bureau touristique à Machtouillas étaient des Européens. Il n'y a pas de Québécois qui voulait les voir. Puis là, maintenant, ça avait changé. Puis là, les gens voulaient savoir si c'était la maison de Coco, etc. Les gens, ils ne connaissaient pas l'histoire, mais à partir du moment où tu leur racontes, ils se rendent compte que c'est leur histoire, il y a un intérêt naturel qui va se faire. Et le territoire, on le partage maintenant. Donc, moi, j'en parle parce que je trouve que c'est utile pour tout le monde. Pas juste les Premières Nations, aussi pour les non-autochtones, parce que ça raconte une partie de leur histoire aussi.
Est-ce que, au niveau des médias, est-ce qu'il y a une belle... il y a un beau mélange. Est-ce qu'il y a beaucoup des gens des Premières Nations dans les médias? Parce que, bon, il y a une certaine évidence, là, quand la personne est de couleur noire, on la reconnaît. Quand il y a des traits asiatiques, on la reconnaît. Mais pour ce qui est des Autochtones, c'est rare qu'on voit dans les médias des gens qui sont très autochtones dans leurs traits, là.
Mais moi, j'étais le seul autochtone à la télévision, donc il n'y en a plus. Je ne sais pas comment c'est rendu à Radio-Canada. Ils en avaient engagé quelques-uns à Espace autochtone, tu sais. Mais ça, c'est un site web, puis ils ne sont pas en train d'animer le téléjournal. Là, ouais. Tu sais, tu comprends? À Québec, il y a Marie-Michelle Sioui qui écrit dans Le Devoir. Elle couvre la colline parlementaire. Alors, tu sais, j'en connaissais un qui était très bon, qui vient de partir, qui a lâché sa job à Radio-Canada. Donc, il y en a peut-être un, deux... peut-être trois, je ne sais pas, mais non, il n'y en a pas beaucoup. Puis c'est un des problèmes aussi, c'est que les Autochtones ne sont pas assez présents dans l'espace public. Ça change. Tu sais, il y a des médecins maintenant, on connaît tous Stanley Valla, mais il y en a plein d'autres.
Ouais.
Il y a des gens dans tous les domaines maintenant qui sont autochtones. Moi, j'ai la chance de travailler avec l'Université de Montréal. Je suis écrivain en résidence là-bas, puis je suis allé, ils font une cérémonie pour féliciter les finissants autochtones à chaque année. Je suis allé l'année passée, tu sais, puis il y avait des infirmières, des ingénieurs, il y avait toutes sortes de gens qui sont autochtones. Une partie de ceux-là retournent dans leur communauté, collaborent, travaillent. Fait que ça va changer. Mais pour l'instant, on est encore assez peu représentés.
Mais d'avoir un Michel Jean qui était chef d'antenne à TVA, ça devait être une certaine fierté pour les Autochtones, pour les Innus qui connaissaient un peu ton histoire en disant « Tabarouette, enfin, il y en a un qui est là, c'est un beau modèle pour notre communauté ».
Oui, quand même, mais tu sais, te donner un exemple. À un moment donné, une des choses qui m'a incité aussi à commencer à parler de mes origines, c'est au même moment à peu près où je te racontais l'histoire avec la cousine de ma mère, il y a la directrice de la bibliothèque de Pessamit. Pessamit, c'est à côté de Baie-Comeau, sur la Côte-Nord. C'est des Innus. Puis j'avais publié trois livres, dont Envoyé spécial, et deux romans, mais aucun qui parlait de questions autochtones à ce moment-là. Puis elle avait mis en rentrant dans la bibliothèque mes livres, elle avait écrit au crayon rouge en haut, Michel Jean, auteur Innu. Alors, pourquoi quelqu'un m'envoie la photo par Messenger? Pourquoi elle fait ça? Elle essaie de dire aux jeunes que c'est possible d'être un Innu et d'écrire des livres. Parce que je demandais à des amis, tu penses-tu que c'est quelque chose que tu peux faire? Toi? Non. Pas des affaires qu'on faisait. Je connaissais personne qui l'avait fait. C'est que depuis une dizaine d'années, en fait, que les Autochtones ont commencé à écrire. C'est la même chose dans les médias. Ça va finir par se faire. Tu sais? Mais on n'est pas encore rendu là. Mais bon. Il y a le fait qu'aussi, quand même, on n'est pas nombreux, on est à peu près 2 % de la population. Donc, c'est sûr que... Puis, il y a aussi le fait que beaucoup des Autochtones, ils vivent dans des communautés qui sont éloignées, que dans les communautés autochtones, aujourd'hui encore, les problèmes sociaux qui sont la conséquence des pensionnats autochtones, tu sais, je veux dire, sont encore là, les taux de suicide, taux de décrochage, taux de violence, taux d'alcoolisme. Tout ça, c'est plus élevé que dans la moyenne, même si ça baisse maintenant. Les problèmes sociaux, tu sais, qui ont apparu quand les pensionnats sont arrivés, qu'on a pris les enfants, qu'on les a sortis de leur famille, qu'on a essayé de les endoctriner, qu'on les a tous mélangés, puis qu'on les a brisés, ça s'est retransmis à leurs enfants, aux petits-enfants. On vit avec ça. Ça, c'est un autre handicap qui fait qu'on n'a pas encore toute la place qu'on devrait avoir. Mais moi, je suis un optimiste que ces choses-là vont changer.
Oui, bien, c'est ce que j'entends. Moi, l'importance d'avoir des modèles. Quand j'étais jeune, puis là, c'est là où toi et moi, on va peut-être se reconnaître chacun de notre bord. Quand j'étais jeune, moi, je ne connaissais pas Léo Major, qui est un héros québécois, qui est un gars qui a libéré à lui seul la ville de Svolé, qui était sous le joug des Allemands. Et quand j'étais au secondaire, Michel, je pense qu'on en avait déjà parlé il y a de ça quelques temps. Mais quand j'étais au secondaire, moi, c'était de la culpabilité que je ressentais parce qu'on me parlait de ce que les Blancs avaient fait aux Premières Nations, à quel point on avait abusé de ces gens-là, puis on en avait tiré profit de ces gens-là. Puis j'avais une culpabilité, puis je me disais, mais bon, on est donc bien honteux, tu sais, dans nos façons de faire quand on arrive dans un endroit, puis on veut coloniser. Ouais. Puis je cherchais des modèles québécois. Puis pour ceux qui suivaient le sport, ben, on avait la chance d'avoir des Guy Lafleur, on avait la chance d'avoir des Jean Béliveau. Moi, j'étais à Québec à cette époque-là, fait que j'avais Joe Sakic qui était là, j'avais Owen Nolan, mais au niveau de Léo Major, j'aurais aimé ça savoir qu'il y avait un Canadien français qui est parti de rien dans la vie, dans une famille pauvre de plusieurs enfants, qui s'est enrôlé dans l'armée à 16 ans, dans le régiment de la Chaudière, puis qui est allé outre-mer, est allé se battre contre les Allemands, puis il a réalisé plusieurs missions, plusieurs exploits. Puis ça a été après quelques années qu'on a découvert qui était Léo Major. Puis c'est un gars tellement humble, sa conjointe qui a dit « Mais Léo, pourquoi tu ne m'as jamais raconté ton histoire? » Et lui de dire « Si je vous avais raconté mon histoire, vous m'auriez jamais cru. » Bien, ça a pris une ville qui a reconnu que Léo Major avait fait quelque chose de magistral pour eux, puis qui ont célébré Léo Major année après année dans tous les stades de cette ville-là, pour qu'à un moment donné, ça vienne à nos oreilles, puis on s'aperçoive qu'on avait un modèle québécois. Donc, tu sais, des modèles, moi, pour ce qui est des Autochtones, je trouve ça hyper pertinent pour les jeunes Autochtones, parce qu'eux autres, ils se disent « Hey, je suis né dans une communauté où c'est pas toujours facile. » Puis là, je vois un gars comme Michel Jean, qui est en train d'être chef d'antenne, ou je vois Michel Jean qui est un grand auteur, tu sais, où c'est important d'avoir une représentativité pour créer des modèles pour nos jeunes, tu sais. C'est possible d'y croire.
Oui, c'est sûr, c'est clair. Mais dis-toi que pour les Autochtones, c'est encore pire. Parce que tu n'es même pas dans les livres d'histoire. Tu sais, quand on est un jeune Québécois, il y a des Iberville, il y a des gens de même. Tu sais, puis dans l'histoire, on apprend l'histoire. Mais quand tu es Autochtone, on parle un petit peu des Autochtones au moment des guerres. Les Hurons, c'est des bons Indiens parce qu'ils sont alliés aux Français. Puis les Iroquois, ça, c'est des Mohawks, c'est des méchants parce qu'ils sont alliés aux Anglais. Même encore aujourd'hui, les gens n'aiment pas les Mohawks à cause de ça. Il y a un vieux fond qui leur reste. Les Mohawks attaquaient la Nouvelle-France.
Mais l'histoire a été écrite par les vainqueurs. Hein? Faut
ben oui, d'ailleurs, c'est très drôle. Quand tu regardes le film Le Dernier des Mohicans avec Daniel Day-Lewis,
oui.
Il est le dernier des Mohicans qui est une nation. Mais les méchants autochtones là-dedans, c'est les Hurons qui attaquent et qui tuent les Anglais qui n'ont pas d'armes, etc. Donc, ça dépend de quel côté tu te places la clôture. Mais oui, c'est important d'avoir des modèles, mais tout ça commence par... Tu sais, c'est Ilsepe Isaac qui a dit une fois, je l'ai entendu à la radio, dire, dans l'expression vérité-réconciliation, il y a un mot très important, c'est le mot vérité. Donc, l'idée n'est pas de rendre les gens coupables, les faire se sentir mal, c'est pas utile, ça. L'idée est de raconter la vérité. C'est quoi l'histoire? Comment les choses se sont-elles faites? Comme, tu sais, qu'un événement comme les pensionnats autochtones soit encore aujourd'hui à peu près pas enseigné. Qu'un événement comme le drame, le massacre des chiens nordiques, qui était dans mon dernier roman, ou dans les années, tu sais, soit ignoré. J'ai donné une conférence récemment, une semaine, à des juges, tu sais, des juges de la Cour supérieure. On est quand même dans l'élite de la population, puis il y était 80 juges. J'ai demandé qui connaît le massacre des chiens nordiques. Puis il y a 6 personnes qui ont levé la main. Alors, le massacre des chiens nordiques, c'est là que s'est faite la sédentarisation des Inuits des années 60, ou le Québec, qui avait découvert le potentiel hydroélectrique de la baie James, a décidé donc, OK, on va s'en occuper du Nord. Puis après, les Inuits les ont forcés à vivre dans 14 villages. Ils vivaient leur mode de vie traditionnel. Puis pour les forcer à rester dans les villages, les policiers ont tué les chiens. En 1950, on avait recensé 20 000 chiens. Le Kémix, c'est une race de chiens, comme le Samoyède. Le chien québécois, là. Comme le Samoyède, le Malamute, le Kémix, c'était la race qui était issu au Québec, il y en avait 20 000 de recensés en 1950, mais honnêtement, il devait en avoir 2-3 fois plus que ça. Là. Puis en 1970, il en restait zéro. Les policiers descendaient, abattaient les chiens devant tout le monde, mettaient de l'essence, brûlaient les choses. Puis ça, c'est le drame des Inuits, c'est leur traumatisme. Nous, c'est les pensionnats, eux, c'est ça. Ça a brisé les communautés, puis si tu vas dans les communautés du Nord aujourd'hui, c'est tellement difficile que ça fait mal au cœur. Bref. Ces questions-là, on ne les apprend pas. Les jeunes ne les savent pas. On ne sait pas. Ce n'est pas notre histoire. On n'en parle pas. Alors, moi, je pense qu'il faut commencer par se raconter ensemble c'est quoi la vérité. Et après ça, ben, tu sais, le chemin va se faire, les gens vont se faire, les esprits ils vont s'éclaircir, puis les choses vont aller mieux. Mais tu as raison, tu sais, ça prend des... Tout le monde a besoin de modèles. Chez les Inuits ou les Autochtones, il n'y en a pas beaucoup. Mais il commence à y en avoir. Tu sais, Sonny Volant, c'est quand même quelqu'un d'inspirant. Puis il y en a d'autres maintenant.
Est-ce que tu as l'impression que dans 100 ans, dans 200 ans, on se projette? On ne sera plus là, là mais mettons qu'on se projette. As-tu l'impression qu'il va y avoir une pleine et entière... les gens vont avoir passé à d'autres choses concernant les erreurs du passé? Est-ce qu'il va y avoir une réconciliation? C'est le mot que je cherchais. Parce qu'à un moment donné, on a l'impression que ça finit plus. Là. On s'excuse. Puis à chaque fois, tu te dis, ah, ça doit être fini. Puis là, tu apprends un scandale. Ouais. Puis là, tu te dis, ça n'a pas de bon sens que ça soit passé chez nous. Dans 200 ans, ça va être fini. Ouais.
C'est ça. Mais s'excuser, c'est une chose, mais c'est une étape. C'est pas la fin de l'histoire. Souvent, les gens ont l'impression, bon, on s'est excusé, c'est fini, on continue. Ouais, mais tu sais, je veux dire, prends par exemple qu'est-ce qui se passe dans les forêts en ce moment, là, au nord du lac Saint-Jean, pas loin d'où les choses se passent. Une madame, la madame Diane Blacksmith, là, elle vit là, elle, depuis toujours. Tu sais, je veux dire, tu sais, qui a décidé que où elle vivait, c'était pas chez elle, puis qu'il fallait donner le bois aux compagnies forestières? Est-ce quelqu'un qui a décidé, qui les a consultés? Ces gens-là vivent, là. Puis ils sont en train de complètement couper la forêt. Puis Mme Blacksmith a fait un genre de barricade pour protester. Il y a des Autochtones qui sont allés là-bas. Personne ne les écoute. Il y a un projet d'éolienne qui est dans le Grand Nord, près du lac du parc à Chapmouchouane. Écoute, il y a un projet qui va aller jusqu'en Haute-Mauricie à partir du lac Saint-Jean. Ça, je ne sais pas comment de l'âge des éoliennes. Les gens qui vivent là, ils capotent parce que là, écoute, imagine un corridor qui passe du lac Saint-Jean jusqu'en Mauricie. T'en as-tu entendu parler? Non, t'en as pas entendu parler. On n'en parle pas. C'est bon, c'est des éoliennes. C'est le fun. Fait que, tu sais, reconnaître les erreurs du passé, c'est une chose, mais changer la façon dont on agit maintenant, c'en est une autre.
Ouais, c'est qu'il arrive tout le temps de quoi à chaque année?
Et tu sais, ne pas tenir compte des droits que les Autochtones ont sur leur territoire et tout ça, parce que, bon, les affaires, elles sont comme ça, ça marche pas. Puis, je te le dis, Yannick, Il faut qu'au Québec, les gens comprennent qu'on était comme les homards de M. Parizeau pendant longtemps. T'sais, il pouvait fermer le couvercle, personne ne nous entendait. Mais ils ont inventé les internets. T'sais. Ces choses-là circulent dans le monde.
Ouais.
Moi, je vais beaucoup en Europe. Les gens regardent ça et jugent le Québec et le Canada. Puis si tu ne veux pas que dans quelques années, les gens... Tu sais, j'ai un journaliste allemand qui me dit une fois, « Nous, les Allemands, on a notre passé sombre et on le connaît. » On ne savait pas que le Canada avait un passé aussi sombre que nous, d'une certaine manière. Là, tu te dis, OK, wow. Fait que, tu sais, faut que ça se traduise en façon concrète que les choses se font autrement. Tu sais, quand au lendemain des déclarations de Donald Trump qui va imposer les droits de douane, le premier ministre Legault s'en va à TV puis annonce qu'en réponse, le Québec, entre autres, va construire de nouveaux barrages pour augmenter notre force de frappe. Tout le monde dit « Ah oui, c'est fun, des barrages. »
Mais à quel endroit?
Quand t'es nous, tu te poses la question, quelle rivière?
Exact.
Quelles personnes vont être déplacées? Qui va être tassé? Est-ce que ces gens-là vont être indemnisés? Est-ce qu'on a un mot à dire là-dessus, nous qui habitons là-bas?
Ouais.
Je pense pas qu'on pourrait dire qu'on construit quelque chose à Charlebourg sans qu'on demande aux gens de Charlebourg qu'est-ce qu'ils en pensent. Mais quand c'est des réserves autochtones ou des territoires autochtones, c'est pas la même chose. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de faire les choses comme on les a faites. Puis c'est ça qui est la prochaine étape. Ça va se faire, mais on n'est pas encore rendu là tout le temps.
La perception pour nous d'une rivière, c'est un point d'eau dans lequel il y a du poisson. Dans votre cas, à vous, c'est une survie. De ce que je comprends, tu sauras me l'expliquer, mais vous la considérez comme la sœur, la mère?
Une rivière, c'est pour les gens. Là, une
terre-mère?
Rivière, c'est un... Non, mais c'est un lieu qui te nourrit.
Ouais.
Parce que tu vis grâce aux poissons, dans l'histoire, dans la tradition. Puis c'est aussi pour les Autochtones, c'est chez eux. Tu comprends? C'est leur maison. C'est leur terrain. C'est leur pays. C'est leur territoire. Et donc, quand les gens viennent de l'extérieur puis qu'ils saccagent ça pour faire de l'électricité qu'on vend à des Américains et l'argent va à Québec, puis eux, ils obtiennent à peu près rien, ou sinon le gouvernement va s'entendre avec deux, trois personnes en les payant eux autres direct, on a vu ça. Ça se passe actuellement avec, justement, en Haute-Mauricie. Et puis là, les conseils de banque sont contournés. On va voir les gens. Regarde, je vais t'arranger ça. Puis là, la personne elle-même a de l'argent. C'est son territoire. Elle va pouvoir dire oui, mais tous les autres qui sont autour, non. C'est comme si les Américains voulaient construire quelque chose, puis allaient te voir chez vous. Moi, te payer toi. Ça marche pas de même. Là, fait que c'est tout ça qui est aussi le problème, je trouve. Il faut juste, ça va marcher quand, à un moment donné, on va apprendre à, pas juste à respecter, mais à reconnaître que les Premières Nations puis les Inuits, ben, ils ont le droit, ils devraient avoir le droit de se prononcer sur la façon dont on gère leur territoire. Mm-hmm. Parce qu'ils n'ont jamais cédé. Comprends? C'est ça la notion. Les Autochtones n'ont jamais cédé leur territoire. Pas parce que le Québec a décidé que l'Abitibi, OK, on va la coloniser. Les gens vivent là, ils ont des droits, hein, en droit international. Non, non, OK, on donne ça à des fermiers ou la forêt chez nous, on la donne aux compagnies forestières au Lac-Saint-Jean. Les gens ont des droits au plan international qu'ils n'ont jamais cédé. Fait qu'à un moment donné, ils ont toujours bien le droit d'être consultés. Et on n'est pas encore rendu là. On l'y fait, puis après ça, une fois qu'on a désigné le projet, bon, on va parler aux Indiens.
J'osais avec Conrad Sioui. D'ailleurs, il avait fait une lettre ouverte à ce niveau-là qui était parue dans la presse puis dans le Soleil. Il s'adressait aux jeunes générations d'Amérindiens puis leur disait « Gardez-vous une gêne parce que vous n'avez pas vécu ce que nous, on avait vécu par le passé. » L'histoire de la famille Sioui a largement été répandue dans les médias. Là. C'est une famille qui a eu une couple de problèmes avec le gouvernement. Là. Et puis heureusement, ça a été réglé puis eux ont eu compensation. Mais ce que M. Sioui disait, c'est que les nouvelles générations n'ont pas vécu ce que les anciennes générations avaient vécu. Puis il disait « Gardez-vous une gêne de parler au nom des anciens autochtones. » Puis par le fait même, à un moment donné, je suis tombé sur un documentaire scientifique, Michel, puis il parlait de la transmission des peurs, des croyances, des dangers par le sang. Puis on le faisait par les animaux, ce qui faisait en sorte que les scientifiques ont découvert que ce que les animaux venaient au monde en sachant très bien qui étaient les ennemis puis qui étaient les amis, qui était susceptible de les manger, qui était susceptible de passer à côté puis rien faire. Et ça se faisait naturel. Et ils en sont venus à la conclusion que ça se peut chez l'homme que par le sang, ces douleurs-là se transmettent. Cette misère-là que les ancêtres ont vécue, elle peut se transmettre par le sang. Yeah. Puis je suis revenu dans ma tête avec la discussion que j'ai eue avec M. Sioui, c'est-à-dire que, tu sais, nous autres, on ne le sait pas comment ça fonctionne, la science et tout ça, mais bon Dieu que, tu sais, même si M. Sioui, on le comprend de dire aux nouvelles générations, écoute, tu as 15 ans, là, je comprends que tu vas arriver avec tes pancartes devant l'Assemblée nationale puis chialer, mais calme-toi parce que nous, on a vécu encore pire. Mais par le sang, on s'est aperçu qu'il y a des choses qui se transmettent. Puis des fois, c'est pas juste positif, tu sais.
Oui. Mais oui, ça, c'est sûr. C'est sûr. Puis, mais tu sais, en même temps, tu peux pas en vouloir. Moi, je me souviens du jeune Conrad Sioui, il n'avait pas la langue dans sa poche, tu sais.
Non, c'est ça.
Maintenant, il est président de différents conseils d'administration.
Oui.
Puis je pense que ses affaires vont bien. Fait que, tu sais, des fois, ça t'amène à voir les choses autrement, avec le temps, en prospérant. Mais, tu sais, je pense que les jeunes soient revendicateurs, moi, ça me dérange pas, au contraire. Nous autres, on l'était peut-être pas assez. Tu sais, je veux dire, on a laissé aller des affaires, on n'a rien dit parce que c'était comme ça, puis qu'on pensait que ça changerait pas, etc. Mais ça, je pense pas qu'on avait nécessairement raison de faire ça. Tu sais, je veux dire... Je sors un livre à l'automne, puis je m'étais plongé dans la crise d'Oka. Puis je regardais les affaires de la crise d'Oka, là, puis comment les choses se sont faites. La perception qu'on a eue de la crise d'Oka, c'est que dans l'esprit des Québécois, c'est quelque chose d'extrêmement négatif. Puis les warriors, les Mohawks, ils étaient dangereux, ils étaient offensants. Alors que dans les faits, ils sont juste opposés au fait qu'on détruise la forêt qui était pour eux autres importante. Pour agrandir le terrain de golf, qui serait fermé aujourd'hui parce que le golf est moins populaire, puis qu'on aurait sans doute construit des bungalows collés sur leur réserve parce que les promoteurs auraient acheté les terrains à la ville, puis ils ont juste dit non. Puis on fait une barricade, puis ça, mais tu sais, ça a fait une escalade, les gens. On a fait appel à l'armée, puis il est arrivé malheureusement un soldat, un policier de la Sûreté du Québec qui est décédé lors d'une fusillade la nuit. Mais. Quand tu penses à tout ça, tu te dis comment est-ce qu'on a pu laisser dégénérer une situation comme celle-là? C'est en 1990, la crise d'Oka, c'est pas en 1890. Donc, tu sais, puis on s'est laissé longtemps piler sur les pieds, les Autochtones. Ce temps-là, malheureusement, est fini. Ben, malheureusement, heureusement, est fini. Et en même temps, je trouve quand même moi, que les Autochtones sont respectueux. Je veux dire. Les Autochtones sont non-violents. Quand ils protestent, c'est de façon non violente. Barrer un chemin, c'est pas exactement de la violence. Là. Je veux dire, j'ai couvert, moi, le sommet des Amériques, là. C'était pas des Autochtones, puis ça brassait des deux bords.
Mais c'est pas violent, mais barrer un chemin, ça peut enfantianiser la vie des gens puis des autorités, on le comprend.
Ah, mais je vais donner un exemple. Il y a eu un cas il y a 2 ans, c'était des Anishinabés en Haute-Mauricie, au nord de Joliette, dans ce coin-là. Puis c'est un de mes amis, Denis Théru, qui a fait un reportage, tu sais, puis à J.E. Puis la nouvelle, c'était qu'il y avait une barricade qui barrait le chemin, qui empêchait la pourvoirie d'ouvrir. Bon. Fait que là, M. Denis va, puis le reportage commence avec la caméra qui se précipite sur un manifestant qui met sa main dans la caméra parce qu'il ne veut pas le voir. Puis après ça, on entend la madame qui travaille dans la pourvoirie, puis qui est dans le dépanneur du coin, qui dit là, j'ai plus de clients, mon commerce est menacé. La madame qui travaille dans la pourvoirie, qui dit là, mais là, j'ai été mise à pied parce qu'il n'y a pas de clients, parce que les Algonquins, ils empêchent de rentrer. La propriétaire de l'entreprise, on est le plus gros employeur dans la région, puis là, on est pénalisé à cause de ça. Ça. Fait que, tu sais, toute cette chose, le maire parle, etc. Puis à la fin, t'entends un autochtone ou deux qui parlent, tu sais. Je dis à mon chum Denis, je dis, ton reportage, il manque un gros bout. Ce qui manquait, là, c'est que ça fait longtemps que les Autochtones là-bas se plaignent que la pauvrerie tue trop d'orignaux. Eux autres, là, il n'y a pas un Walmart à côté où ils vont. Les orignaux dans ce coin-là, ils les tuent pour eux autres, pour manger. C'est leur frigidaire. Et je ne me souviens pas des chiffres exacts, là, mais tu sais, c'était comme les Autochtones recueillaient 300 orignaux par année. La pauvrerie était passée à 800, à 900, à 1000, puis cheptel baisse. Eux se plaignent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se plaignent au gouvernement, ils se plaignent aux choses, ils suivent les voies légales. Qu'est-ce qui se passe? Entre les Autochtones qui veulent garder les oignons, puis le village qui dont l'activité économique et les touristes américains, qui est-ce que tu penses que les gouvernements vont écouter? Personne n'a écouté les Autochtones. Pendant 20 ans, ça se poursuit. Fait qu'à un moment donné, ce qu'ils savent faire, c'est qu'ils font un barrage pour arrêter. Puis là, les gens se fâchent. Mais c'est parce que ça fait 20 ans qu'ils vous expliquent quelque chose que vous ne prenez pas la peine d'écouter. C'est ça aussi qui se passe, des fois. Quand il se passe un événement, il faut essayer de comprendre pourquoi ça se passe. C'est quoi la cause de ça? T'sais, c'est quoi la cause de cette barricade-là? Pourquoi les gens le font? Essaye de comprendre, puis des fois, tu vas te dire, ouais, peut-être qu'on aurait dû faire les affaires autrement.
Cet après-midi, quand j'ai annoncé aux gens au travail, dans la station de radio, que j'allais te rencontrer ce soir puis que j'allais te jaser, je leur ai demandé « Quelles questions vous voulez poser à Michel Jean? » Puis curieusement, il y a une question qui revient, c'est « Ça fait-tu du bien de ne pas être dans l'actualité tous les jours puis de ne pas juste des fois avoir des mauvaises nouvelles à raconter au monde?
» Tu vois, je reste dans l'actualité parce que quand... C'est comme, je sais pas, tu sais, si t'es... Un journaliste, c'est parce que tu aimes l'actualité.
Ouais.
Fait que c'est pas parce que tu arrêtes d'avoir à le couvrir que tu vas arrêter de lire, de t'informer, d'écouter la radio, les choses. Je me sens pas... Des fois, une chose que j'ai aimée, je vais dire, j'ai passé 3 mois en Europe là, récemment pour mes activités là-bas. J'aimais ça parce que là, j'ai comme été coupé du buzz
ouais. De
l'actualité. Bon, tu sais, j'avais la presse. Bon. Mais tu sais, je voyais ce qui se passait, mais j'étais coupé du buzz, des réactions, etc. Puis là, je me suis dit, wow, quand même, c'est vrai que je me sens comme plus... c'était comme un safe space dans le sens que tu es comme coupé de tout, puis que là, je me sentais bien. Alors que quand je suis ici, tu sais, je commence encore ma journée en regardant les journaux, en regardant CNN, je regarde NBC, je regarde Midas Touch, les podcasts qu'ils font, je regarde... Tu sais, j'aime l'actualité. Tu sais, je suis devenu un journaliste parce que j'aimais ça. Fait que je ne vais pas arrêter. Tu sais, je ne pense pas que si tu étais un joueur de hockey de la Ligue nationale, tu prends ta retraite, tu arrêtes de t'intéresser au hockey. Tu sais, tu vas peut-être jouer moins, mais tu vas regarder pareil ce qui se passe.
Ouais, c'est peut-être parce que c'était une de tes passions. Là, tu sais, moi, j'ai des news addicts ici. Là, c'est du hard news constamment, puis c'est des gens qui sont là-dedans. Ouais. Puis même pendant les vacances, ils ne sont pas capables de décrocher. Mais moi, je vais t'avouer que quand je vais en vacances, là, je laisse mon cellulaire de côté. Puis 1-2 semaines, là, pas de François Legault, pas de Paul Saint-Pierre Plamondon, pas d'Éric Duhaime. Hey, ça fait du bien de ne pas entendre parler d'actualité pendant 2 semaines.
Parce que t'es sorti, t'es comme moi en France, tu comprends? T'es sorti de ce buzz-là qui est autour tout le temps. Là, tu te sens coupé. Mais quand on est ici, reste, passe 2 semaines chez vous, tu l'entends, François Legault.
Ouais. Ah oh, oui.
Et là, tu dis, ah oui, c'est vrai, il y a telle affaire. Puis là, tu vas regarder, qu'est-ce qu'ils ont dit là-dessus? Ah, qu'est-ce qu'ils... ah, OK. Ah, c'est quoi, là? Hier, j'écoutais, là, j'écoutais, puis là, on va annoncer demain le troisième lien, c'est quoi? Là, le lendemain, tu regardes, qu'est-ce qu'il y en est. OK, ah, c'est ça, son show-là, tu regardes, là, OK. OK, on va faire ça, hein? OK, c'est bizarre. Tandis que quand tu es en vacances dans le sud ou quand tu es comme moi en France, tu ne l'entends pas à la radio qu'on va en parler, tu vas le checker. Ah, OK, c'est ça. Puis ça, honnêtement, oui, ça fait du bien.
T'as-tu remarqué qu'il y avait une façon différente de traiter la nouvelle ailleurs, en Europe? Moi, je l'ai remarqué au Mexique. J'avais une conversation avec un employé de l'hôtel qui me demandait, bon, ce que je faisais dans la vie. Je disais que je travaillais dans les médias, patati patata. Puis il disait, ben, de quoi vous jasez ces temps-ci? Puis dans, on parlait du fameux troisième lien. Écoute, on parle du troisième lien là, depuis 4-5 ans à tous les jours. Je ne suis plus capable de parler de ça. Et le gars de me dire, OK, c'est un peu différent du Mexique, parce qu'ici, quand on a besoin d'un pont, on le construit.
Ouais, okay. Ça doit coûter moins cher au Mexique qu'on se
ouais, rend pas, mais lui, il parle de la drogue, il parle des les faits divers sont très, très présents. On veut savoir qu'est-ce qui se passe dans la ville et tout ouais. Ça. Mais des histoires d'infrastructures, si on en a de besoin là-bas, ben, ils se les payent tout simplement.
Oui, mais en France, il y a beaucoup de politique. Tu sais, chez les Français, moi j'étais en France, en Italie, en Allemagne, là. Puis, mais plus en France, il y a beaucoup de politique. Moi, je suis moins sensible à ce qui énerve les gens parce qu'il y a la montée de la droite là-bas, puis il y a beaucoup de gens qui votent pour eux autres, donc qui aiment ça, mais il y en a beaucoup qui. C'est polarisant, donc il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça. Dans le monde du livre, il y a plus de gens qui ne sont pas vraiment de l'extrême droite. Fait que, tu sais, je suis beaucoup en contact avec des gens à qui ça fait peur, puis qui sont comme ça. Moi, je suis moins sensible à ça parce que c'est pas mon monde. Tu sais. Je suis là, moi, comme un touriste, d'une certaine manière. Fait que je me sens pas personnellement impliqué. Mais ils parlent beaucoup de politique. Mais des fois, il y a un journal où j'étais, ça s'appelle... j'ai oublié le nom. C'est un petit journal local. Puis je le lis. Puis les nouvelles, c'est, bon, la traversée des chèvres en montagne, de la transhumance, on amène les chèvres en haute montagne, c'est en fin de semaine. La culture du telle affaire cette année va être news, you can use. Ça, c'est une nouvelle.
Oui.
C'est l'art de la transhumance des chefs. J'adore ça. Ça, j'ai lu l'article au complet.
Hey Michel, il reste encore quelques secondes à l'émission, mais je dois faire une pause. Je veux parler de tes projets parce que tu es un auteur assez reconnu. Tu es rendu à combien de livres? Moi, je t'ai parlé en 2008 de ton premier livre.
Qui ah, j'ai 10 en... livres. 10 livres avec deux recueils de nouvelles que j'ai dirigés en plus. Ouais.
Donc, 10 livres, puis là, ben, ça continue encore. Donc, je veux
parler. Il y en a un à l'automne qui sort qui va s'appeler Cabassa. J'ai pris le livre que j'avais écrit avant Cocoon qui s'appelait ouais. Tsunami. C'est l'histoire d'un journaliste. Qui s'en va courir le tsunami là-bas ouais. En 2004-5.
Garde ça pour nous autres. Garde ça pour nous ouais. Autres parce que je veux parler de ça après la pause de tous tes projets. Je rappelle aux auditeurs qu'on a le plaisir de passer la soirée avec Michel Jean, qui est auteur, l'ex-chef d'antenne de TVA et ex-journaliste aussi, qui a changé de look, les amis. Il a de l'air d'une rock star. On dirait qu'il joue de la. On dirait qu'il joue du rock.
Non, j'ai juste les cheveux longs.
Les cheveux longs! OK, on fait une pause et on revient.
Marceau, le soir. Dans le retour.
Elle est vice-première ministre, ministre des Transports, Geneviève Guilbeault. Pouvez-vous m'expliquer le parcours de la CAQ par rapport au troisième lien, comme si j'étais un enfant de 5 ans, parce qu'on est nombreux à pas vraiment vous suivre là-dedans?
Oui, bien, le troisième lien, effectivement, il y a eu un projet centre-ville à centre-ville, c'était un tunnel. Ça a été...
C'est pas le même corridor que celui qu'on annonce aujourd'hui.
Du tout.
Ensuite, c'est ça, il y a eu la pandémie, les modifications, modification partielle. Au sérieux, le message que nous ont envoyé les gens dans Capitale-Nationale, dans Chaudière-Appalaches. On fait de la politique, on est là pour servir les gens, pour prendre les messages quand tout le monde...
Malheureusement, j'ai pas appris grand-chose de plus par rapport à la présentation qui a été faite ce midi.
Par contre, on voit que c'est la ministre des Transports parce qu'elle pratique vraiment très, très bien le détour.
Gravel dans le retour, tous les jours en semaine, 14h.
Ouais, puis tous nos bons coups, les niaiseries d'Audrey, puis notre vie privée qui l'est plus pantoute, tu retrouves ça sur le blvd.fm.
Hey, ça en fait des choses à écouter, ça.
Pour la fête des pères, une bière froide de Chaloux, c'est bien meilleur qu'un mot dans une carte. Chaloux, bière de micro, bière de soif, à Beauport et Saint-Émile. Chez Miville Climatisation, on est concessionnaire autorisé Mitsubishi Electric numéro 1 au Québec. On est même lauréat du prix Diamant témoignant de notre excellence. Grâce à nos thermopompes performantes chez Miville Climatisation, ça fait 57 ans qu'on garantit votre confort. Visitez miville.ca.
En montant dans une Prius hybride branchable toute neuve... vous pourriez tout d'un coup accepter de conduire des amis à un festival de musique au beau milieu de nulle part. Même si la musique est d'un style dont vous ignoriez totalement l'existence avant ce matin, tout ce qui reste à faire, c'est de la ramener à la maison. Pour découvrir de nouveaux modèles épatants comme la Prius hybride branchable, visitez achetermatoyota.ca ou passez chez votre concessionnaire du Québec et repartez en Toyota.
En changeant pour Desjardins Assurance, vous pourriez économiser jusqu'à 350 $ en assurant deux autos ou plus.
Ah ouais?
Et ils ont de l'expérience, plus de trois générations.
Ça change quoi?
Ben, imaginez si votre chum faisait du barbecue tous les jours depuis trois générations.
Côte de bœuf en croûte de sel grillé et son écume moléculaire aux herbes.
C'est tout? C'est ordinaire.
Ben là, on est juste lundi quand même.
Desjardins Assurance, c'est pas d'hier qu'on assure. Ça, ça rassure. Demandez une soumission. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s'appliquer.
Le civisme sur la route, c'est...
C'est juste de savoir-vivre.
Le civisme sur la route, c'est...
Ah, tout le monde sait ce que c'est.
Le civisme sur la route...
C'est juste bien se comporter, arrêter de couper le monde...
C'est ça. Arrêter de couper le monde.
Ah, ouais. OK, je comprends. Excuse-moi.
C'est aussi ne pas accélérer au feu jaune, mettre son clignotant...
Excusez, je peux y aller?
Oui, oui.
C'est juste de savoir-vivre.
Exact. Bien se conduire sur la route, c'est juste la base. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
C'est la méga-vente chez Maxi. Profitez de milliers de baisses de prix, dont le beefsteak d'Aloyau à 8,88 $ la livre, les cuisses de poulet à 1,50 $ la livre, la mangue rouge ainsi que les concombres anglais à seulement 55 cents, limite de 6 par client. Plus de rabais en circulaire et chez Maxi.
Gros week-end chez Escale VR Beaumont. De jeudi à dimanche, c'est la grande vente porte ouverte. Burger gratuit sur place, rabais jusqu'à 30 000 $ et financement à partir de 6,79 %. Viens vivre l'aventure VR. Escale VR Beaumont, sortie 337 autoroute 20.
Le Festival Coué, c'est un voyage de trois jours à la rencontre des 11 nations autochtones au Québec. Démonstrations, découvertes culinaires, spectacles, conférences. C'est gratuit pour toute la famille du 13 au 15 juin à la place Jean-Béliveau à côté du Grand Marché de Québec.
Chaque semaine, découvrez une nouvelle saveur de molle à la crèmerie de la fromagerie Victoria. Profitez-en pour faire le tour de nos succursales. Pistaches, limettes, gâteaux au fromage, il y en a pour tous les goûts. Fromagerie Victoria, de Québec à Lévis, parfait pour vos road trips du week-end.
Salut, c'est Joanie. Le lundi 16 juin, dans le balado Histoire d'entrepreneur, j'ai l'immense honneur de recevoir William Trudel des Immeubles Trudel, avec qui on a jasé d'immobilier commercial, l'avenir de l'immobilier commercial au Québec. Ça passe par quoi? Et son histoire, bien évidemment, parce que ce balado s'appelle Histoire d'entrepreneur. Je vous donne rendez-vous lundi, le 16 juin.
Histoire d'entrepreneur, présenté par l'équipe Marc-Antoine Reed, DG Gestion privée du patrimoine, qui s'occupe de la planification financière et fiscale de votre entreprise. Équipe MarcAntoineReed.com.
Envie d'un été électrisant? Passez à l'ID4 2024 de Volkswagen. En ce moment, chez Laval Volkswagen, obtenez-le avec un financement à 0% jusqu'à 72 mois. Et ça, c'est sans vous parler du 4 000 $ de rabais gouvernemental et de 11 000 $ de rabais additionnel.
Coudon, le donnez-vous?
Non, mais ce qu'on donne chez Laval Volkswagen, c'est un service de feu. Venez nous rencontrer et passez à l'électrique chez Laval Volkswagen. Laval Volkswagen, sans flafla depuis 1968.
Cet été, prenez le contrôle avec Enviroconfort grâce à nos thermopompes et climatiseurs de marque reconnue. Thermopompes, climatiseurs murales ou centrales, accumulateurs de chaleur et géothermie, plusieurs produits disponibles selon vos besoins. Enviroconfort, le choix du consommateur en chauffage et climatisation.
L'application Boulevard, dans une poche près de chez vous. Poche de jeans, poche de shorts. Pis même ta poche d'hockey. Appelez, textez, votez, réécoutez. L'app Boulevard 102.1. C'est plus que du rock. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir. Le soir.
Auteur, l'ex-chef d'antenne de TVA et ex-journaliste est avec nous dans le podcast de ce soir. Je te remercie d'être avec nous ce soir. C'est vraiment le fun de te jaser. On a parlé un peu de journalisme tantôt. On a parlé des Premières Nations. On a parlé de tes origines, des problématiques qu'il pouvait avoir encore pour les gens des Premières Nations. Des perceptions aussi qui pouvaient être différentes d'un bord comme de l'autre. Là, moi, je veux parler de tes projets. Parce que quand j'ai été sur ta page Wikipédia, j'ai vu que tu étais encore jeune, je me suis dit, il est ben trop jeune pour qu'on le voit plus à télé. Finalement, tu es encore journaliste, écris encore une fois de temps en temps, mais tu fais des livres, puis tu as des projets qui s'en viennent. Là. On me dit à l'automne prochain.
Ben là, j'ai cet automne, j'ai un autre roman qui sort. J'ai réécrit donc ce livre Tsunami. Je l'ai écrit avant Cocoon, puis bien les choses ont changé pour moi depuis ce temps-là. Puis c'est un livre que j'aimais. Puis je me suis dit, je ne le réécrirais pas de la même manière aujourd'hui. Donc, je l'ai comme réécrit. Il y a plus que la moitié du livre qui a été changé. La trame de l'histoire reste la même. Le journaliste qui s'en va couvrir le tsunami, qui s'en va dans le nord, comme moi, j'avais fait rencontrer les tigres tamouls, parce qu'à l'époque du tsunami, il y avait une rébellion, puis une guérilla, la nation tamoul, qui est comme un des peuples là-bas, qui est minoritaire au Sri Lanka, et c'était très dur. Il y avait cette guerre-là. Puis dans le roman, ben, il s'en va là, mais quand il parle avec le chef tamoul, le fait que lui-même, il soit un Abénaki, le journaliste, qu'il soit un autochtone, tu sais, quand il reproche la violence au tamoul, ben, le chef tamoul, il dit, ouais, mais vous autres, là, il dit, qui c'est qui vous écoute, les autochtones? Il dit, toi, t'es autochtone, t'es Abénaki. Qui parle encore la langue Abénaki, ils ont disparu. Fait que nous, on n'a pas l'intention de disparaître. Fait que, tu sais, pourquoi tu me fais la morale sur mon show? Fait que c'est comme une conversation, si tu veux, entre, tu sais, le chef lui dit, personne ne s'occupe des petits peuples. Tout le monde s'occupe juste des États. Puis ça, c'est une vérité. Donc, ça donne un regard. Puis là, je l'ai réécrit, puis le roman sort à l'automne. Puis en même temps, ben, j'ai des projets d'adaptation à partir de mes romans. Je suis en train de finir le scénario de Kimik, qui est mon dernier roman qui est paru il y a presque 2 ans. Ça va être un film qui va être fait par Annick Jean avec Patrick Huard. Puis je suis en train de faire des corrections sur le scénario qui est fait. Ça va bien.
Comment tu les as approchés, Patrick Huard et Annick Jean?
Approché.
C'est eux, OK. Parce qu'ils ont aimé le livre.
Oui, Annick, elle a capoté sur le livre. Puis elle voulait faire Cocoum en film, mais j'avais déjà vendu les droits de Cocoum. J'ai dit, écoute, j'ai un roman qui sort, là, puis je pense qu'il est bon. Puis quand elle l'a lu, elle a capoté, elle a dit, oui, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Fait qu'on dit comme ça que ça s'est fait, ça s'est réglé très rapidement. Là, tu sais, je la connais bien, c'est une amie, Annick. Fait que c'est elle qui va réaliser. Cocoum, on va faire une série TV. Ça, on avait vendu le droit justement à une maison, puis bon, eux, ça marchait pas parce que ça coûtait la série, je pense, coûtait cher par rapport à ce que eux autres voulaient. Fait que là, ça se fait avec quelqu'un d'autre. Ça va être super intéressant. Ça va être une série d'une saison, 6 épisodes. Puis je vais écrire le scénario aussi. Mon roman Joe Jagge, qui se passe en milieu urbain, qui raconte l'itinérance autochtone, qui est mon avant-dernier livre. Il y a un projet en développement avec le même producteur qui a fait la série Surprenant. Ça va être intéressant. Puis il y a un projet de film aussi avec Le Vent parle encore, producteur qui a caché les droits puis qui travaille là-dessus. Donc, je fais ça, je travaille sur ces choses-là, je travaille sur mes projets de livres en même temps. Tout ça, ça fait. Puis j'ai beaucoup de tournées en Europe. Fait que je retourne en Europe à l'automne, je vais en France. Tu sais, j'y vais dans 2 semaines, 3 semaines en France. Là, j'ai un festival littéraire où je vais aller là-bas. Créteil en poche, que ça s'appelle. À l'automne, j'ai une série d'événements aussi, puis une tournée. J'ai un truc en Allemagne. Fait que, tu sais, mes projets, c'est faire travailler. Pour moi, l'Europe, c'est intéressant comme un marché. On vend moins de livres là-bas qu'on en vend ici, mais ça marche quand même bien. Comme on est rendu à plus de 80 000 copies en France. Là,
wow, OK.
Fait que, tu sais, un best-seller en France, c'est 10 000 copies. T'sais, c'est pas 100 000 comme les gens pensent, c'est 10 000. Mais tu sais, c'est des marchés qu'on développe tranquillement. On y va souvent, on va dans les librairies, il y a toujours du monde, le temps plein. Des fois, une petite librairie, il y a 30 personnes, mais c'est plein. Le lendemain, il y en a 80, c'est plein. Fait que, tu sais, puis au début, quand j'allais, les gens, c'était de la curiosité. Maintenant, je vais dans une librairie quelque part ou un événement, les gens, d'habitude, ils connaissent mes livres, ils en ont lu un ou deux. Fait que, tu sais, c'est comme un marché à long terme que tu développes.
Ouais.
Parce que tu essaies de diversifier ton champ d'action, puis de donner le plus d'air possible à ton œuvre. Tu sais, évidemment, c'est comme n'importe quoi. Tu veux que le plus de gens possible lisent tes livres. Okay. C'est lui. Donc, je fais tout ça en même temps.
Ouais.
Fait que ça me plaît beaucoup.
Mais c'est ça, t'es loin d'être à la retraite. Là, pour les gens qui
pensent. J'ai jamais pris ma retraite. D'ailleurs, à TVA, quand je suis parti, je ne voulais pas le mot retraite sur le communiqué de presse. Ils m'ont montré le communiqué de presse. Ça ne parlait pas de retraite, le communiqué comme tel. Mais ce qu'ils ne m'ont pas dit, puis ils savaient pourtant que je ne voulais pas mettre le mot retraite. Mais à TVA, les gens qui partent sont soit morts, soit ils n'ont pas le choix. Là. C'est vrai que quand tu pars d'eux-mêmes, quand ils sont dans ma position.
Ouais.
Ils ont envoyé le courriel à tout le monde. Puis le titre du courriel, c'était Michel Jean prend sa retraite. Okay. Mais j'ai jamais eu l'intention de prendre ma retraite. J'avais envie de faire autre chose.
Ouais, mais tu me disais tout à l'heure que tu faisais à peu près 50 heures, 60 heures par semaine. Je veux dire, tu es loin de la retraite. Est-ce que c'est important pour toi d'aller visiter les endroits où tu vas écrire des livres? Tu disais que tu avais rencontré les tigres tamouls. Tu n'as pas eu la chienne d'aller rencontrer ces gens-là? C'était pas super là, comme ambiance? Là?
Non, parce qu'il n'y avait pas d'avantage. Il y a plus d'avantage à ce qu'on parle d'eux en bien que de nous faire peur. T'sais.
Ouais.
Fait que, tu sais, il n'y a pas de raison que... ça leur a juste valu des problèmes. Tandis que là, il y avait avantage à bien paraître par rapport aux médias internationaux. Fait que ça ne m'a pas fait peur. J'ai eu peur des fois quand j'étais en Irak pendant la guerre, en Haïti, quand on a failli se faire tuer dans une fusillade.
Ouais, tu t'es fait tirer dessus. Je raconte
un envoyé spécial, ben c'est oui. Ça. Là, j'ai eu vraiment la peur de ma vie. Mais je suis pas obligé d'aller visiter les lieux. Non, là, souvent, tu sais, comme ce livre-là, Cabassa, je connais les lieux, puis ça m'a inspiré le livre. Mais tu sais, par exemple, Coco, moi, je ne suis jamais allé aux passes dangereuses, elles n'existent plus. Il y a un réservoir d'eau. On ne peut même pas les voir. Québec, qui se passe dans le Grand Nord, je ne suis pas allé dans le Grand Nord.
OK.
Alors, souvent, ce que je vais faire, dans un monde, tu sais, on a une vision romantique de l'écrivain qui s'en va sur les lieux, prendre connaissance, respirer l'air, etc. Mais dans la vraie vie, on a des jobs, on a des horaires, on a des affaires, tu sais, puis on n'a pas l'argent ou le temps pour faire ce chose-là.
Mais moi, j'aurais été visiter plus le Grand Nord qu'à aller revoir les tigres tamouls en me disant, ben, ils n'ont pas d'intérêt à me tuer, ils veulent juste bien paraître.
Oui, ouais, c'est ça. Mais je vais aller dans le Grand Nord quand on va faire le film.
Ouais.
Mais tu sais, j'ai m'amené pour visiter les lieux, j'ai trouvé des vidéos, un père et son fils qui ont fait toute la côte du baie du son comme ça, en montant vers le nord en bateau. Puis ils filmaient ça. Moi, j'étais sur leur bateau. Je checkais les images, je regardais la couleur de l'eau, les îles, les types d'oiseaux, les côtes, les paysages, exactement où mon roman était. Puis j'étais capable, après ça, de trouver des images puis de les décrire. Il y a d'autres manières de tu sais, c'est comme la radio. Il y a une certaine époque, ça se faisait d'une manière avec une équipe de 10 personnes autour de toi,
ouais.
Des recherchistes, des équipes, des choses, des studios. Il y avait amateur en ondes aussi, Maintenant, ça se fait autrement, puis la radio est aussi bonne. Tu sais, on a appris à faire autrement. C'est la même chose pour écrire. On a des moyens qu'on n'avait pas auparavant. Et donc, si j'avais le temps et l'argent, j'irais passer 6 mois quelque part, tu sais, pour bien sentir. Mais je vends des livres, pas du pétrole. Tu sais,
exact.
À un moment donné, il faut aussi s'arranger pour que ce soit économiquement viable.
Tu sais. Exact. Là, tu restes chez toi, tu es dans le secteur du Mont-Saint-Anne. Est-ce que tu viens faire un tour à Montréal une fois de temps en temps? Tu viens-tu à Québec?
Ah, ben oui, je suis juste à Montréal toutes les semaines.
OK.
Je suis allé, on est quoi, le mercredi? J'étais là en début de semaine. J'y vais la semaine prochaine 3 jours. Tu sais, j'ai beaucoup d'activités, j'ai beaucoup de rendez-vous, j'ai beaucoup d'affaires. Tu sais, les projets de série, j'essaie d'y aller de temps en temps sur place. Je vois quasiment autant de soins à Montréal que quand j'habitais à côté de Montréal. Là,
tu vas rater la F1, là. C'est cette semaine, la F1, Michel?
Ça, la F1, depuis que j'ai arrêté de le courir, je ne suis pas retourné. J'aime ça regarder la TV.
Ouais.
Mais je ne suis pas quelqu'un qui est... Honnêtement, moi, je suis un peu agoraphobe. Des fois, je me dis... Parce que je suis jamais allé au festival de jazz. J'étais allé au festival d'été une fois voir Jane Birkin. J'avais des billets en avant. Sinon, je suis la personne qui fuit les événements où il y a beaucoup de gens.
Ah ouais, bon.
Je m'en vais comme un vieux Indien dans le fond du bois.
On en sait maintenant plus sur toi, Michel Jean. Écoute, ça a été un plaisir de passer cette heure-là en ta compagnie. Un gros merci. Je sais que
t'es
très occupé, puis on invite les gens. Est-ce que tu as un site Internet? On peut-tu aller sur micheljean.quelque chose?
Pas encore, il est en développement. On va le faire. Il devrait sortir d'ici 6 mois. Là. Je suis en train de le développer avec quelqu'un aux États-Unis. Ça va être vraiment beau.
Donc, on peut te suivre sur les réseaux sociaux.
Voilà,
tes livres sont dans toutes les bonnes librairies.
Voilà.
Un gros merci, Michel Jean.
Ça me fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Là.
Au revoir. Salut. Bye bye. Je vous rappelle qu'on était avec Michel Jean, auteur, ex-chef d'antenne à TVA et ex-journaliste. Je vous souhaite de passer une agréable soirée sur nos ondes et on se reparle demain, tout le monde, à la même heure. Ciao.
Marceau, le soir.
La saison des terrasses commence en force avec le Festibière de Lévis du 26 au 29 juin au Quai Paquette avec Jay Scott, Clay & Friends et Classe Moyenne. Cette semaine, le Festibière de Lévis s'invite dans Gravel dans le retour pour vous offrir des accès pour l'événement. Restez à l'écoute toute la semaine, l'équipe vous
posera une question spéciale festivière. Répondez-y correctement et vous pourriez remporter votre accès hebdomadaire avec dégustation. Boulevard 102.1 et le Festibière, fier partenaire de vos sorties estivales.
Savourez l'été grâce aux tranchettes de fromage fumé de la Fromagerie Bergeron. Parfaites pour le barbecue. Vous trouvez pas que ça sent l'été tout à coup? Disponible chez IGA et Maxi. Vous cherchez un endroit spécial pour le brunch du dimanche? Venez goûter la cuisine du Moulin de Beaumont. Savoureuse, unique et servie dans un décor parfait pour un délicieux moment en famille avec une vue exceptionnelle sur le fleuve et l'île d'Orléans. Réservez votre place, moulindebeaumont.ca.
Tu penses qu'acheter une auto pas neuve, c'est pas avantageux? Ben non! Comme une neuve, t'as des garanties et du financement. Pour une voiture, c'est Charlebourg Toyota. Va voir les avantages au commeneuve.com.